vous repasse pas, mais je vous les repasse quand même, nos petites règles. Et je vous propose que nous commencions par le premier dossier, car à nouveau, un peu comme la semaine dernière, j'ai préparé des petits dossiers, un peu moins que la semaine dernière, pour des raisons que vous comprendrez. Donc on a, je crois, une huitaine, et il y en aura peut-être un neuvième, un outsider, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Sinon, l'outsider, ce sera pour la semaine prochaine. Bonjour, oh, c'est pas grave. Vous avez une petite table ? Oui, je pense que vous avez trouvé ce qu'il faut dans le fond. Bien. Voilà, donc on va commencer par le premier petit dossier, toujours évidemment sur le même thème, de la conservation et restauration du patrimoine, et on va aborder aujourd'hui des domaines que l'on n'a pas abordés avant. Et je vous propose de regarder ça. Alors, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est que cet objet que vous avez sous les yeux, qui n'est pas forcément très bien en point ? Alors, c'est un objet en terre, oui, en terre cuite, hein, un objet en terre cuite, à qui il est arrivé bien des malheurs, visiblement. Cet objet, c'était quoi, à votre avis, à l'origine ?
Il
y en a un. C'est un seul...
Une boîte.
Vous y avez une boîte ?
Une pixide, oui.
Une pixide, une boîte ?
C'est pas ça.
Je pense pas.
Ah mais non, c'est creux,
il y a une chose là.
Voilà.
C'est creux ça.
Il y a une anse.
Alors ça c'est creux, hein. C'est creux. Il y a effectivement une anse là, enfin un morceau d'anse.
Ouais.
Pardon, une demi-amphore. Une mini-amphore. Alors, on a effectivement les fragments d'un seul et même objet, bel et bien en terre cuite. Vous avez noté effectivement qu'il y avait une anse. Qu'est-ce que vous avez encore comme fragments qui soient identifiables, là ?
Peut-être un bord.
Oui.
Là-haut.
Ouais. Voilà. Ça, c'est un bord. Et d'ailleurs, ça aussi. Hein. Donc, vous avez des bords. Hein. Enfin, des bords.
Un décor coloré.
Et il y a effectivement des éléments colorés. Hein. Vous voyez que c'est une céramique qui a un décor coloré. Extérieur, absolument.
Mais antique.
Antique.
Oui, je
pense. Ouais. Antique de où ?
De Crète.
De Crète ?
Oui, ou Grèce.
En tout cas, de Grèce.
Oui. Hein ?
Non ? Tout le monde est OK avec ça ?
Bon, difficile.
Ça peut.
Difficile à dire.
Difficile.
C'est les couleurs.
C'est vrai que ça fait beaucoup penser à des vases grecs, on va dire primitifs, pour faire vite. Hein.
Ouais.
Effectivement, minoens, des choses comme ça.
Et c'est hein. Pas ça.
Donc. Et c'est pas ça.
Ça date du Moyen-Âge.
Et ça date du Moyen-Âge, absolument. Oui, oui, ouais. Du Moyen-Âge, et de notre Moyen-Âge à nous, ce que vous avez là, c'est un objet tout à fait français, hein, et qui date du XVe siècle. Hein. Donc c'est une pièce médiévale. Vous m'avez donc dit qu'on voyait une anse, qu'il y avait les restes du bord. Ça, c'est des restes de quoi, alors, ces éléments-là ? De ce qu'on appelle quoi ?
Le corps.
Le corps. Le corps, c'est un nom pour un vase, en général. Pardon ? Pardon ?
La panse. La panse.
La panse. Voilà, la panse. On dit la panse. La panse du vase. Bon. Donc, on a là des éléments de la panse du vase, du bord, une anse. Et alors, si ça, c'est des éléments de la panse, ça, c'est des éléments de...
Du fond.
Du fond, hein, tout simplement. Autrement dit, on a là un vase qui, a priori, est un vase avec une anse, un bord. Comment est-ce qu'on peut appeler un vase qui a une anse ?
Une cruche.
Voilà, non, c'est une cruche. Une cruche, c'est effectivement... une sorte de bouteille avec une anse. C'est ça la différence entre la cruche et... Alors, ces objets-là, qui sont assez répandus au XVe siècle sous nos climats, et qui étaient souvent d'ailleurs des espèces de cruches qui, en même temps, pouvaient se mettre sur le feu, on les appelle des coquemards. Mais vous savez que c'est un nom qu'on utilise, oui, qu'on utilise parfois aujourd'hui pour des objets plutôt en métal. Hein. Voilà, donc là, on a un coquemard en terre cuite du XVe siècle. Bien. Alors, vous avez ça, qu'est-ce que vous faites ? Ça a été trouvé, comme vous l'imaginez, à votre avis, dans quel contexte a été trouvé ça ?
Une fouille de...
voilà, dans des fouilles archéologiques, hein,
et
sur des fouilles archéologiques qui ont permis de découvrir ça. Donc, vous découvrez ça, vous faites quoi ?
On essaie de reconstituer.
Vous essayez de reconstituer. Et alors, vous allez faire comment ? Avec du
blanc.
Avec
du blanc,
enfin, oui, il ne faut pas...
D'accord, c'est-à-dire que vous allez voir ce qui peut recoller ensemble, mais votre blanc, comme vous dites, vous allez le mettre où, votre blanc ?
Dans un trou. quoi dans les manches?
Dans les manches.
C'est-à-dire que ce que vous dites, j'essaie de reformuler, vous allez reconstituer ce que vous pouvez reconstituer, il y aura des manques, c'est ça? Et c'est les manques que vous complétez en blanc, c'est ça?
Oui.
Oui, oui.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on on reconstruit l'objet avec les éléments qu'on a, on voit ce qui colle ensemble, quoi. Et vous pensez qu'il y a, que tout y est, là?
Non.
A priori, il y a des manques. Hein. Et donc, ces manques, on met des éléments blancs en quelle matière? En plâtre, en argile? En argile, on utilise le même matériau que le vase lui-même. On peut?
Ce serait pas mal, non?
Ce serait pas mal? Ce serait bien? Oui, c'est conseillé. Ouais. Vous êtes si sûr que ça? Vous savez, en général, on en avait, je crois, un petit peu parlé tout à fait au départ. En général, en restauration, on fait attention quand on restaure et qu'on réajoute des éléments, de prendre des matériaux différents des éléments d'origine. Pourquoi, d'ailleurs?
Pour bien voir.
Voilà, pour bien voir. Hein. Voilà, pour bien faire la différence. Pour bien faire la différence entre ce qui est original et ce qui ne l'est pas. Donc il y a une différence de matériaux qui intervient. Hein. Alors, j'ai pris du plastique, hein, mais on prend généralement, voilà, on peut prendre par exemple des plâtres ou des résines. Hein. Il y a toutes sortes de résines. Hein. Voilà, donc en tout cas un matériau un peu différent.
Ça peut être le même matériau, mais pas de la même couleur.
Voilà, exactement. Ça peut être un matériau similaire, un type d'argile, mais pas forcément de la même couleur et pas forcément de la même texture non plus.
Hein.
Voilà, donc il faut donc que ce soit qu'à l'œil, mais aussi à l'analyse, on puisse voir que ce n'est pas la même chose. Hein. Alors vous allez peut-être faire ça, par exemple. Voilà donc votre coquemar qui a été recollé à partir de ce que vous aviez. Comme vous le disiez, il en manque des morceaux. Hein. Voilà, il a été en partie mutilé. On peut tout à fait le laisser comme ça. Vous avez raison, on peut décider de le laisser comme ça. Hein. Donc ça, c'est tout à fait possible. Hein. On n'est pas obligé d'en faire plus. Hein. Qu'est-ce qui, si on veut en faire plus, nous autorise à le faire? Parce que vous avez raison, on peut dire, on laisse comme ça, c'est bon, c'est réglé, pas la peine d'investir davantage.
Ça ne tiendra pas longtemps.
Pardon ?
Ça ne tiendra peut-être pas
longtemps.
Alors,
c'est vrai que
ça.
Le problème, c'est que c'est pas très mécaniquement, je dirais, voilà, c'est fragilisé puisqu'il en manque des morceaux, ça va peut-être pas tenir très longtemps. Vous voyez cette partie-là en particulier, qui est un peu dans le vide. Hein. Bon, au bout d'un moment, au bout de quelques années en réserve, je pense que ce sera un peu déniapé, comme on dit. Hein. Donc, ça va peut-être pas tenir très longtemps. Hein. Donc, on peut laisser comme ça, c'est pas interdit, mais on peut également dire qu'on reconstitue ce qui manque. Qu'est-ce qui nous autorise à le faire? Oui, il y a effectivement plus de la moitié, et surtout, donc effectivement, il n'y a plus de la moitié du vase. Hein. Il y a plus de 50% du vase qui est conservé, c'est vrai. Et surtout, qu'est-ce qui est conservé, justement?
On a la forme.
On a la forme. Hein. C'est-à-dire on a la totalité du profil. Hein. C'est-à-dire qu'on a, depuis la base jusqu'à la lèvre, c'est-à-dire jusqu'au-dessus du col, si vous voulez, on a la totalité de la forme. C'est une pièce qui est, comme on dit, archéologiquement complète. Hein. C'est-à-dire qu'on a la totalité de tout, sauf quand même un petit élément. L'anse, ça on ne sait pas. Hein. Parce qu'on sait, sait tout concernant le vase, il est archéologiquement complet, sauf pour l'anse. Hein. Alors l'anse, c'est sûr qu'elle ne va peut-être pas à 15 mètres de haut, on est d'accord. Hein. L'anse, elle doit se raccrocher, elle devait se raccrocher sur le bord, on est d'accord. N'empêche qu'on ne l'a pas. Donc il est archéologiquement complet, moins ce problème de l'anse. D'accord. Donc, on va effectivement faire, vous le disiez, hein, ça, c'est-à-dire qu'on va, dans les parties manquantes, mettre une sorte de matière hein, que l'on va, donc, qui va venir boucher le trou. Ce qu'on fait souvent, d'ailleurs, c'est qu'on met une sorte de, comment dire, d'élément à l'intérieur du vase, en dessous, vous voyez ce que je veux dire hein, et par-dessus, on va couler, entre guillemets, la partie qui est destinée à compléter le manque. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui. Hein ?
C'est l'opération que vous voyez là. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez là votre Kokmar qui est recomposé, je pense que vous le reconnaissez. Et voyez comment la partie pierre de lance a été complétée. Ça ressemble un peu, oui. Sauf que ça sert à faire la cuisine.
C'est un peu petit aussi.
Voilà. Alors, le voilà terminé. Qu'est-ce que vous auriez justement à dire sur cette restauration achevée ? On l'a vu au départ, on le voit maintenant achevé, restauré. D'abord, la partie restaurée, elle est où ? La partie restituée, elle est
à gauche.
Elle est à gauche. Hein. Et puis, il y a aussi tout ça. Hein. Tout ça, c'est restitué. Hein. Éveillons tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'ailleurs ici au niveau de la restauration ? Pardon ? Alors, sur l'anse, on n'a pas vraiment mis de couleur. Mais pour quelle raison, d'ailleurs, à votre avis ?
Sans doute parce
qu'on ne sait pas, voilà. Et sans doute aussi parce que quand vous voyez la base de l'anse, parce que l'anse jusque-là, à peu près, elle est originale. Hein. Après, elle ne l'est pas, mais là, c'est bon, ça. Hein. Ben voilà, là, on voit qu'il n'y a pas de, il n'y a pas vraiment de couleur. Hein. Et il n'est pas sûr que les filets, forcément, continuent. D'ailleurs, ils s'arrêtent, là. Hein. Voilà. Donc, en gros, on a repris une couleur, en tout cas, approchante. Hein. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on a fait ?
On a ombré un peu.
Voilà, on a un peu ombré. Pourquoi ?
Bon, pour que ça fasse
l'harmonie.
Voilà, une sorte d'harmonie avec ce que vous avez là. Là, si vous voulez, vous voyez que c'est un peu sombre. Ben, on a amené doucement le sombre de l'autre côté. Hein. Voilà. C'est-à-dire que on a quand même fait en sorte de pas, de pas créer un choc, j'allais dire, hein, trop vif, entre la partie originale et la partie qui ne l'est pas. Alors, on voit ce qui a été rajouté. Mais enfin, on a un peu calmé la chose en faisant une petite retouche. Bien. OK. Voilà pour une céramique. On va en regarder une autre, qui est celle-ci. Alors là, vous diriez quoi ? C'est quoi comme objet ? D'abord, comment est-ce qu'on pourrait appeler ce genre d'objet ?
Un gobelet.
C'est un gobelet. À votre avis, ça date de quand ? Ça a été trouvé où ? Oui, c'est tourné, ça, je pense, oui. Vous dateriez ça de quand ? Et vous trouveriez ça où ?
En Italie ? En Italie ? Non.
Italie ?
Sud.
Mais, ouais, c'est...
C'est pas ça.
Et à quelle époque ?
Ça.
Et tardif, quand vous dites tardif, c'est tout est tardif.
Plus contemporain,
plus vers nous alors. Hein, plus récent, après le 15e alors.
Hein,
donc on aura quelque chose peut-être d'italien et d'après le 15e siècle, j'allais dire peut-être 17e, 18e siècle. Ça vous va ça ? Ça vous irait ?
Je pense que c'est pas ça.
D'abord, ça vient de France, mais du sud de la France. On n'est pas loin de l'Italie. Hein. Ça vient d'Arles, et ça date de l'Antiquité. Alors, de la fin de l'Antiquité, c'est pour ça que vous étiez tardif, c'est vrai, mais tardif dans l'Antiquité. C'est du 4e siècle. Quatrième siècle de notre. Hein. C'est un type de céramique, vous savez comment on appelle cette céramique ?
Sigillée.
Voilà, c'est la céramique sigillée. Hein. Une céramique rouge un peu brillante, qu'on appelle sigillée parce que, en général, c'est une céramique qui est réalisée dans des moules, hein, donc dans des, entre guillemets, sceaux, hein, SC. Hein. Et c'est pour ça qu'on appelle sigillée. Bon. Voilà. Donc, vous avez trouvé ce vase. Comme vous le voyez, il en manque un morceau. Vous allez donc faire quoi ?
Rien.
Rien. Donc, vous avez la possibilité de rien faire. Hein. Ça, c'est la première possibilité.
Il est quand même...
Oui, il est quand même assez complet. Puis là, vous n'avez pas le problème de fragilité qu'il y avait tout à l'heure. Alors, si vous souhaitez quand même faire quelque chose, vous avez le droit. Pourquoi ? Et donc, comment est-ce qu'on appelle ça quand il est complet partout Voilà, il est archéologiquement complet. Donc, on a le droit de recomposer ça parce qu'on sait, mais si ça n'existe plus, quelle était la silhouette générale de ça. Donc, on va faire ça. Voilà, oui, ben voilà la notice. On va donc faire ça, on est d'accord. Hein, ok. Sauf que là, évidemment, c'est pas terrible. Hein. Mais là, c'est pas terminé. Qu'est-ce que vous allez faire pour terminer ça? Donc là, vous avez fait votre comblement avec du trou de blanc, comme on en parlait tout à l'heure. Ok, le trou est reconstitué. Oui, alors c'est une matière, je sais pas quelle est la matière. Tu veux me dire qu'il fait penser à du plâtre? Je suis pas sûr que ce soit du plâtre tout court, hein. Enfin, une matière qui y ressemble. Ok. Mais qu'est-ce qui manque là pour que la restauration soit terminée?
Pardon. La décoration.
Alors la décoration, donc on complète la décoration?
Non.
Une couleur. Donc on complète une couleur, mais pas de décoration.
Non.
Hein, okay. Non, parce que la décoration elle est prise dans la masse.
Alors la décoration elle est prise dans la masse, et puis il y a quand même un petit peu un problème au niveau de la décoration.
Ben
voilà, on ne sait pas. Alors bien sûr, là vous voyez qu'il y a, voilà. Mais si vous voulez, là l'espèce, vous voyez qu'il y a une sorte de palme là, hein, avec une tige. Enfin, est-ce qu'elle faisait ça? Est-ce qu'elle faisait ça? Est-ce qu'elle faisait ça? On ne sait pas trop, hein. Voilà.
Et l'autre côté donnerait-il une indication?
Alors oui, là on a quelque chose. Là, peut-être que ça allait comme ça. Mais vous voyez peut-être que ça faisait ça, quoi. Oui. Parce que là on a quelque chose en même temps.
L'autre face.
Alors l'autre face montre qu'un décor similaire, mais pas forcément symétrique, vous voyez ce que je veux dire. Donc, visiblement, il y a des palmes et des espèces de patères, si vous voulez, de ce genre-là, mais comment c'est organisé, difficile de dire, quoi, hein. Donc, autant la forme, on le sait, autant le décor sur la forme, non. Alors, effectivement, ce qui manque là, c'est une couleur, un fond, enfin, un ton de fond, hein. Par contre, effectivement, on évitera de compléter le décor. Et bien, il y a peut-être une chose également qui sera importante dans le travail en question. Là, encore une fois, ce n'est pas tout à fait terminé. Et il y a notamment une petite chose qui a été faite en partie, mais pas partout, et qui est importante dans ce genre de restauration. C'est quoi, à votre avis?
Le bord, là, il est...
Le bord? Oui, là.
Il est refait,
il est marqué parce que lui, il est sûr, quoi.
Oui, mais il est sommaire.
Oui, il est sommaire. Alors, sur le reste du... Mais c'est vrai qu'il est un peu sommaire. On sent que ça n'a pas été terminé. Hein. On a fait le bouchage. On n'a pas repris. Alors, c'est un petit peu sommaire, mais là, c'est très sommaire. Donc, il va falloir sans doute le reprendre un peu. Hein. Et puis, il y a peut-être encore une autre chose à reprendre un peu, qui a visiblement été commencée, mais qui n'est pas achevée. Là, le vase n'est pas... La restauration n'est pas finie. Ce serait quoi?
L'intérieur.
Alors, peut-être l'intérieur. Ça, on ne le voit pas. Mais je pense qu'à l'intérieur, il y aurait des choses à finir. Mais imaginez que ce soit coloré, doucement, hein, un peu de la même teinte que le reste. Ça vous permettra donc de voir quelle est la pièce qui a été ajoutée. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas également un détail?
La jonction n'est pas fondue.
Pardon?
La jonction n'est pas fondue.
C'est ça. C'est-à-dire qu'à quel endroit vous le voyez, par exemple?
À droite.
Oui. Ici, la jonction n'est pas fondue. Ce que vous voulez dire, c'est que ce n'est pas en face l'un de l'autre.
Oui, c'est pas... affiné,
c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le manque et puis après le vase. Quoi. Il y a le manque et puis le vase, les deux se raccordent mal. Est-ce que c'est bien à votre avis ou pas bien? Enfin, est-ce que c'est volontaire, pas volontaire? Est-ce que c'est bien, pas bien? Comment est-ce que vous verriez ça?
Un début.
Pardon?
Un début.
C'est-à-dire que...
Un début de restauration.
Oui, précisez peut-être un petit peu.
C'est en cours.
Alors c'est en cours, hein, absolument. Mais à votre avis... Ça, c'est pas fini. Parce que là, on voit par exemple que c'est au même niveau. Hein. Donc là, c'est fini. Là, c'est pas fini. Ou bien là, c'est fini. Et là, c'est pas fini. En clair, est-ce que quand la restauration s'est terminée, il faudra que ce soit comme ça, c'est-à-dire pas l'un au même niveau que l'autre, hein, ou comme ça, l'épiderme original au même niveau que la pièce rapportée?
Comme à gauche,
il faut que ce soit comme ça. C'est plutôt l'inverse. Alors, et voilà, c'est ça. Qu'on puisse voir la tranche et qu'on puisse voir avec un léger dévers, si vous voulez, ce que ça donne. Vous allez voir sur la diapo suivante. Voilà. Là, vous voyez le vase terminé. Donc, vous voyez que on a une espèce de petit dévers qui fait qu'on voit en fait assez bien que la surface de la partie rajoutée est un peu en deçà de la surface du vase lui-même. ça permet vraiment d'être très lisible, si vous voulez.
Oui.
À la fois, vous voyez que la couleur, la partie rapportée, d'abord, elle est assez uniforme par rapport au reste du vase. Mais en plus, elle est un peu plus claire. Pas beaucoup, mais un peu. Et en plus, la surface à partie rapportée est donc en retrait, hein, par rapport à ce reste du vase. Ça permet d'être plus clair, finalement, sur la partie rapportée. Je vous montre un autre exemple. Hein. Voilà, là, par exemple, une cruche espagnole. Hein. Et là, vous voyez que, de la même manière, alors cette cruche était bien abîmée et tout ça manquait, on l'a complétée, mais vous voyez bien hein, le retrait. Hein, la partie rajoutée est plus bas que la partie originale. Vous voyez, quand vous voyez ça, c'est tout de suite plus clair. Quoi. À la fois, l'œil n'est pas gêné par la chose rajoutée, mais vous la voyez clairement. D'accord ? Un petit détail que je voulais également vous montrer, on n'en a pas parlé, mais c'est un petit peu une évidence. Qu'est-ce que vous montre cette diapositive-là ?
Avant et après.
Oui, avant et après. Alors voilà, avant et après le... Vous l'avez dit. Oui, la restauration, mais vous avez envoyé...
Peut-être
voilà,
le nettoyage.
On n'en a pas parlé tout à l'heure, aussi parce que les vases que je vous ai montrés en morceaux, hein, enfin, le premier, le coquemar, étaient déjà nettoyés. Mais vous voyez là un objet, hein, alors là, pour le coup, grec, hein, corinthien, avant et après nettoyage, un objet intact. Hein. Vous voyez que le nettoyage donne des résultats assez bien. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui fait, d'ailleurs, que le nettoyage fait qu'on passe de ça à ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui fait que cet objet-là, non nettoyé, est comme ça. Voilà, il y a un dépôt. Voilà, c'est ça. Il y a des dépôts de quoi ?
Calcaire.
Un dépôt calcaire, hein. Une espèce de plaque calcaire qui colle sur le vase et qui fait que ça occulte le décor. Et voilà ce que ça donne une fois nettoyé. Vous voyez que c'est quelquefois très. Alors ça dépend à chaque fois des contextes. Hein. Mais là, l'objet était intact et vraiment, le nettoyage a permis de révéler le décor.
Comment on fait pour nettoyer ça,
Ah, ça, c'est un... Alors, il y a des procédés... On va dire qu'il y a deux types de procédés. Il y a soit des procédés qu'on appelle mécaniques, c'est-à-dire, on prend un petit scalpel, alors c'est tout ça se fait sous binoculaire, et voilà, hein, et on enlève les plaques de calcaire hein, qui encombrent l'objet. Ou alors, il y a des possibilités plus chimiques. Hein, on utilise des solvants. Alors, peut-être, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous voulez, il y a deux types d'interventions. Soit des interventions vraiment mécaniques, c'est-à-dire qu'avec la main et un objet, on n'y va pas, soit chimique. Alors, troisième petit dossier, ça. Alors, même chose, là, d'abord, quel objet vous avez sous les yeux ? Et d'où vient-il ? Quel peut-être ? Ouais. Alors, c'est un bol, et c'est effectivement japonais. Hein. Qu'est-ce que vous voyez là ?
Très nettement.
Le
rafistolet.
Je reçois le cylindre sous le bol.
Le pied.
Le pied, voilà.
Il a quoi le pied ?
On dirait qu'il est cassé.
Ah, ça ! Non, c'est... Il y a effectivement un ressaut de... On va dire que le cylindre du pied n'est pas régulier, hein, mais c'est volontaire.
Mais c'est parce qu'on a trouvé tous les morceaux.
Il est déjà restauré. Là.
Alors, il est déjà restauré, oui.
Parce qu'on a retrouvé tout.
Alors, effectivement, on a retrouvé les morceaux, et donc c'est un objet restauré. Ok. Qu'est-ce que vous donc cet objet est restauré. Qu'est-ce que vous diriez de cette restauration ?
Mais volontairement très visible.
Volontairement voyant. Et alors vous en pensez quoi ? Parce qu'effectivement voilà un objet qui est d'ailleurs peut-être pas très très ancien. Hein. En tout cas voilà un objet qui est un bol japonais cassé, recollé, avec une restauration que vous voyez là achevée et qui est très visible. Hein. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Par rapport à ce qu'on a vu depuis le départ.
Ça
aurait pu être moins visible. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait, vous ?
Mais ça fait un décor, finalement.
Oui, je trouve que ça fait doré.
Ça fait doré, c'est joli.
Oui,
c'est artistique.
C'est artistique.
C'est volontaire.
Oui, ça donne
Mais ce sont peut-être les méthodes japonaises qui sont très différentes des nôtres.
Donc, au Japon, on aurait une méthode de restauration où les restaurations sont très visibles. Donc, on n'essaie pas, comme dans l'Occident, de calmer un peu le jeu. Parce que là, en Occident, on aurait fait un petit bleu, là, un petit peu en dessous. Et puis, on aurait également fait quelque chose en retrait. On est d'accord. Les banques auraient été complétées légèrement en retrait. Et on aurait trouvé une couleur teintée dans un bleu un peu plus gris clair que le vase lui-même. On est d'accord. Donc là, on aurait une volonté de montrer la restauration très très clairement.
Oui, oui. Et c'est vraiment une restauration.
C'est vraiment une restauration.
Mais c'est
volontaire. Enfin.
Non.
Est-ce qu'il a été vraiment restauré ? Est-ce qu'il a été cassé ?
C'était comme ça.
Parce que cette restauration, elle est faite en quelle matière ?
C'est de l'or.
En tout cas, c'est une matière dorée. Donc, vous avez raison, vous avez très bien vu de quoi il s'agissait. C'est-à-dire que cet objet a bel et bien été restauré. Mais il se trouve que, au Japon, un objet usé, cassé, et recollé, si vous voulez, est d'autant plus vénérable qu'il a été cassé et qui, donc, si vous voulez, que la cassure montre son utilisation. Vous voyez ce que je veux dire, Donc, plutôt que de cacher ça, on va le montrer. Alors, sachant quand même que la restauration, vous voyez là, est une restauration ancienne. Cet objet date du milieu du XXe siècle. Et il y a effectivement une école de restauration au Japon, ou plutôt une école de réutilisation d'objets qui part du principe que vous avez un bol, même si un bol pas très ancien, par exemple. Un bol que vous utilisez tous les jours depuis 20 ans, vous avez acheté, etc. Vous le cassez, deux solutions, soit vous le jetez, soit vous le gardez. Mais plutôt que de le faire recoller, que ça ne se voit pas, vous allez faire ça et rendre les parties composées encore plus visibles. Et puisque c'est mieux cassé et recollé que pas cassé du tout, parce que puisque c'est cassé et recollé, ça témoigne de l'utilisation de l'objet, vous allez compléter, non pas avec une vague résine un peu bon marché, non, vous allez le faire carrément avec des filets d'or. Vous voyez, ça donne à l'objet plus de valeur encore, parce qu'il est plus vénérable. Donc ça, c'est amusant, parce que c'est un... Voilà, c'est vraiment une attitude très très spécifique. La restauration doit être visible et donne encore plus de valeur à l'objet. C'est pas parce qu'il est cassé qu'il en a moins, il est cassé, il en aura donc plus.
Mais enfin, on ne restaure pas toutes les vaisselles cassées, j'espère.
Oui, on va pas nous faire exprès de casser la vaisselle. Mais alors, c'est un autre, absolument. Ce genre de tradition, parce que c'en est une, ça a effectivement un nom. Ça s'appelle le kintsugi. Voilà. Kintsugi ou kintsugi, je ne parle pas japonais.
C'est-à-dire qu'il restaure toujours, qu'il ne laisse pas commis en l'état non restauré.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que là, vous avez un objet qui date du milieu du XXe siècle, qui a donc c'est un objet qui n'est pas très ancien, si vous voulez, et donc un objet usuel, Ça pourrait, par exemple, le bol de votre grand-mère utilisait, vous le cassez, zut, je ne peux plus utiliser la tasse de ma grand-mère, non seulement vous ne pouvez plus l'utiliser, mais c'est la tasse de votre grand-mère. Donc, si vous voulez, elle a deux problèmes. Vous l'utilisez, vous ne pouvez plus, et puis c'est un objet qui est chargé pour vous, Donc, le fait de le dorer comme ça fait que, un, vous allez pouvoir le réutiliser, et deux, il est donc chargé de tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Et quand vous donnerez cet objet à quelqu'un de votre famille, il sera d'autant plus vénérable qu'en plus vous l'avez eu, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une espèce d'épaisseur, de valeur comme ça. Alors, ça ne veut pas dire, attention, que quand on trouve au Japon des objets en fouille archéologique, on fasse ça. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce n'est pas forcément la même chose. C'est-à-dire qu'au Japon, vous trouvez des objets d'époque très ancienne, des vases datant du 1er millénaire avant Jésus-Christ, vous n'allez pas les restaurer comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est un type de restauration, j'allais dire, un peu domestique. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est fait pour des objets que l'on a et que l'on veut... Voilà, qui ont une dimension d'intimité. Et si je vous ai montré ça, c'est pour vous montrer plusieurs choses. Pour vous montrer que, un, on n'a pas tous partout les mêmes attitudes dans le monde par rapport à ces questions de conservation du patrimoine. Hein. La preuve, en France, on ne ferait pas ça, si vous voulez. C'est pas trop ce qu'on ferait. Hein. Et deux, c'est pas parce qu'on fait ça au Japon, dans cette école Kintsugi, c'est pas pour ça que on ne fait pas la restauration entre guillemets normale,
comme
vous voyez, hein, comme ce que je peux vous montrer avant. Voilà, hein. La restauration archéologique au Japon, elle existe aussi, d'accord. Mais c'est important de voir que tout n'est pas simple, quoi. Voilà, et égal. Alors, je vous montre quelques autres exemples de Kintsugi. Voilà, voilà. C'est, moi, je trouve ça très très beau, d'ailleurs. Et c'est très très japonais. Enfin, et je trouve que c'est merveilleux. Enfin, on a toujours à apprendre des autres, vous le savez, notamment des cultures autres, et on le verra dans l'atelier d'après. Mais effectivement, je trouve en plus que ça nous donne du moral à nous occidentaux. Moi, j'ai horreur de casser de la vaisselle, par exemple. Hein. Et je trouve bien de pouvoir se dire, bah tiens, finalement, la vieille assiette de grand-mère cassée, et on ne veut pas que ce soit gagné, mais elle est quand même, et ben, on peut la faire recoller, mais comme ça. En fait, ça donnera une valeur, et l'objet cassé, recollé, est doré, et encore plus précieux, parce qu'il est couvert de cet or, encore plus précieux après qu'avant.
Mais pas forcément utilisable.
Pas forcément, mais souvent oui. Hein. Ah. Oui, 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 oui. Et alors, la cérémonie du thé au Japon, c'est dans la tarte. Hein. Cérémonie du thé, c'est la cérémonie du thé. Hein. Si on vous sert dans un bol comme ça, ah, c'est vraiment important. Voilà, exactement. Hein. Pas dans un de ces bols intacts, etc. Non, un bol avec des ébréchures et recollé comme ça. Alors là vous êtes bien vu, quoi. Enfin, oui, c'est un objet. Voilà, encore un exemple. Hein. Ça, c'est un bol en raku. Hein. Et donc, vous voyez là aussi comment la fissure a été dorée. Et alors, quelquefois, je vous montre ça. Vous avez là le bord d'une bouteille. Et vous voyez qu'on a complété. Et on a complété avec, en plus, des petits... ici, on a fait des petits rendus de feuilles et de fleurs. Hein. C'est-à-dire que la partie manquante, il y a une ébréchure. Le morceau est cassé, perdu. Eh bien, on l'a complété. Alors là, ce n'est pas avec de l'or, c'est avec des petits éléments végétaux dorés sur fond brun. Souvent, ces compléments dorés ou bruns ici sont faits avec du lac. Hein, c'est ce que c'est que le lac. Hein. Et bien voilà, on utilise le lac pour ces compléments-là. Hein. Donc vous voyez, ce n'est pas doré, c'est décoré, mais c'est la même démarche. Bien. Quatrième petit dossier, ça.
Un vase,
ok. Alors c'est en quoi? Ça vient d'où? Ça date de quand? C'est quoi ça?
On dirait que le pied est en verre.
C'est romain.
On dirait que le pied est en verre. C'est romain.
Peut-être, je sais pas. Il y a des dessins, des personnages.
Oui, il y a un petit Gugus là-haut.
Oui, un Gugus là-haut.
Un autre en dessous.
Un autre en dessous de l'albâtre.
C'est du verre avec des inclusions de métal.
Du verre avec des inclusions de métal.
C'est un galet.
Je sais pas.
Un galet.
Non, pas vraiment.
C'est difficile à voir.
Porcelaine.
Non.
C'est curieux au milieu là.
Non, c'est pas du verre.
Au milieu, ça.
Non,
ça,
oui,
c'est quoi ça?
Ah, c'est un trou.
Oui, c'est un trou. Là, il y a, ben, y a un manque. Oui, ouais. C'est quoi ça? Pardon? On dirait du carton. Il y a un bout de carton qui a été mis là. Et ça, c'est quoi ça?
C'est une ficelle, quoi.
Ouais, c'est des. Oh, c'est plus qu'une ficelle, même. Oui, c'est un bout de fil de fer qui a été mis là avec le carton pour que ça tienne. Vous voyez, on a un bout de fil de fer là, un bout de fil de fer là, et là, un bout de carton pour que cette espèce de vase puisse tenir. Il est en quoi? Alors, vous disiez porcelaine, vous disiez verre, vous disiez albâtre.
On ne voit pas suffisamment.
On dirait de la terre.
Terre?
On ne voit pas.
Ah oui, est-ce qu'il est...
C'est pas très lisible. Hein.
Non.
Parce que, visiblement, ce truc cassé a été remonté sur... Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, on a l'impression d'une sorte de plâtre. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cet objet assez cassée, hein, a été remontée sur une sorte de forme en plâtre, hein, que dessus, on a plus ou moins collé, encore qu'il y a ici un bout de carton, bon, puis du métal pour tenir. Voilà, pour tenir. Pardon ?
Il fallait y tenir.
Oui, ah oui. Oui, il fallait vraiment y tenir. Hein. Alors, cet objet qui est en verre, hein, certains d'entre vous l'avaient deviné, c'est du verre. Mais du verre un peu tripatouillé, hein, il est arrivé bien du malheur à ce vase-là. Ce verre, vous le voyez de datant de quand et il fait où ? Antiquité.
Romaine.
Antiquité romaine.
Mais le personnage, je ne sais pas trop.
Ah, oh, c'est pas très facile à voir. En plus, c'est bien abîmé tout ça. Hein.
Ouais.
Et vous dateriez ça de quand ? Vu de nez. Pompéi, donc 1er siècle.
Ouais.
Allez. Oui.
Mais il y en a. Mais
je pas. 1er siècle de notre ère, ça vous irait ça ? Un vase romain du 1er siècle, par exemple.
C'est 17e siècle.
Non, c'est pas ça.
L'inspiration est à son comble.
Non.
Ah, ou une chose plus récente.
Oui.
On parlait de Galet tout à l'heure.
Oh non.
Non.
Un peu avant.
J'aurais insisté. Eh bien, c'est un objet antique. Bel et bien. Et qui date, en fait, de l'époque hellénistique. C'est-à-dire ce verre que vous voyez là date du 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a un objet très ancien. Très ancien. Qui a été même découvert en Afghanistan. Pourquoi d'ailleurs ? Pour qu'un objet hellénistique grec, hein, de ce genre a pu être découvert en Afghanistan.
Parce qu'ils y sont allés.
Voilà. Hein, Alexandre, hein, vous savez, a poussé l'Empire grec, appelons-le comme ça, hein, jusqu'à des limites extrêmement orientales. Et donc la culture grecque a essaimé partout. Donc finalement, ne nous étonnons pas de trouver en Afghanistan des objets de ce genre. À vrai dire, je crois que la découverte a dû se faire à l'extrême fin du 19e, au début du 20e siècle. Mais des archéologues français, en Afghanistan, dans un site qui s'appelle Begram, ont trouvé, fin 19, début 20e, hein, un ensemble d'objets tout à fait extraordinaires. Une grande partie est aujourd'hui au musée Guimet à Paris, l'autre partie au musée de Kaboul, en Afghanistan. Et ces objets sont très intéressants parce que, datant de l'époque hellénistique, juste après, si vous voulez, Alexandre, hein, il rassemble des objets plutôt de tradition grecque, mais aussi des objets plutôt de tradition orientale, montrant bien l'espèce de mélange, voilà, hein, qu'il y a dans l'Orient hellénistique, quoi, hein. Donc vous avez des objets comme ça qui sont à la fois très grecs et en même temps déjà orientaux, et l'inverse. Quoi. Bien. Alors, vous avez cet objet-là à partir du musée de Kaboul. Hein. Il a été reconfié récemment à des restaurateurs français pour être restauré. Vous avez ça, vous faites quoi ? Oui, déjà, vous arrachez les cheveux. Non. Alors, après, vous êtes arraché les cheveux, vous faites quoi ? On enlève le carton, oui, ça me paraît une bonne idée déjà. Déjà, on enlève le carton, ça nous fera des vacances. Hein. Bien.
Il soutient peut-être.
Faire un moulage. Hein ?
Faire un moulage.
Un moulage. Sur le vase.
À l'intérieur ou extérieur.
Et pour quoi faire ?
Pour garder le souvenir.
Ah ! Autrement dit, c'est un objet condamné.
Il y a un peu de chance.
Ben, on va le voir magnifique.
Pardon ? Ah, c'est, oui, puisque là, après tout, on a du plâtre. Hein. On pourrait peut-être compléter, enlever le carton. Hein. Peut-être d'ailleurs enlever les deux fils métalliques, qui ne sont peut-être pas très harmonieux. Hein. Et puis, mettre du plâtre à la place. Compléter ce qui a été fait à droite. Hein. Rendre plus homogène l'affaire. Ok, ça vous irait, ça ? Ouais.
Un gabarit à l'intérieur.
Ben, c'est un petit peu finalement ce que vous disiez d'une certaine manière. Hein.
C'est du verre.
Pardon, c'est du verre, oui. Mais à l'intérieur, c'est plutôt plâtreux. Hein. C'est peut-être une fine couche, parce que ça a l'air un peu translucide. Mais bon, mais c'est un peu plâtreux. Hein. Bon, il me semble qu'il y a une chose que je ferai déjà en premier.
Il faut consolider déjà.
Oui, quand vous dites consolider, ça veut dire quoi? Justement, combler les vides avec du plâtre, comme on vient de nous le dire.
Non, plutôt regarder s'il ne faut pas démonter en partie les morceaux et les recoller de manière.
À zéro.
Je crois que c'est une idée sage, parce que tout ça m'a l'air un peu château branlant. Hein. Et j'ai un peu l'impression que tout ça gigote un peu, puis. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que cette espèce de matière blanchâtre sous le verre a un peu de mal à faire, à donner l'impression cristalline qui était celle de ce verre au départ. C'est-à-dire qu'au départ, vous aviez là un objet en verre dont le but était d'être transparent.
Oui, mais donc, c'est, or là, c'est la peut-être sauvée.
Pardon.
C'est la peut-être sauvée.
C'est la peut-être sauvée en son temps. Hein, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que. L'opacité plâtreuse de ce truc à l'intérieur fait que la dimension de transparence n'est pas très...
On met une résine transparente, une résine, peut-être.
Alors, on pourrait mettre une résine transparente. Mais c'est vrai que pour faire tout ça, ce que vous suggériez, là, me paraît très bien. C'est-à-dire commencer déjà par démonter. Quoi, hein, parce que je crois que c'est un peu difficile, vous voyez, alors au-delà du carton et des trucs en métal qui sont déjà pas terribles, je pense que le reste est quand même pas très en forme, et puis pas très bien, on a l'impression qu'il y a des traces de colle, vous voyez, bon voilà. Qu'est-ce que vous pensez du pied ?
Il paraît différent,
il a été rapporté.
Ouais, je crois qu'il a été rapporté.
Voilà.
D'ailleurs, vous avez dit, c'est un temps peut-être la céramique, voilà, on a vraiment l'impression que le pied n'est pas du tout bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pied, c'est-à-dire que ce n'est pas le pied du vase. Hein. On a lu un mot X ou Y rapporter une espèce de pied, voilà. Donc effectivement, je pense que la première chose à faire, c'est de démonter les éléments, c'est d'ailleurs ce que l'on va faire. Hein. Alors voilà, vous avez là quelques... annonce, voilà le vase des mots. Hein. Vous voyez, c'est pas un drame finalement. Hein. Enfin, c'est presque mieux démonté que ce que l'on a vu avant. Hein. On y voit un peu plus clair hein, quand même. Hein. Parce que là, on a démonté, qu'est-ce qu'on a fait aussi ? On a nettoyé. Donc on a démonté, on a nettoyé. Et puis il y a peut-être une troisième chose que l'on a fait.
Mais on a repéré certains
morceaux. On a effectivement fait un certain nombre de travaux,
de repérage,
etc., de repérage, oui. Et puis, par rapport à la restauration de cet objet, qu'est-ce qu'on a certainement fait aussi ? C'est du verre, mais du verre comment ?
Émaillé.
Du verre émaillé, du verre coloré. Et ça, qu'est-ce que ça vous inspire ? En termes de conservation-restauration, toujours.
Il faut fixer.
Voilà. Il faut refixer. Hein, parce que l'émail est sur le verre. C'est d'ailleurs peut-être même de la peinture sur verre. C'est possible. Donc c'est fragile. Et donc il faut nettoyer, il faut démonter, nettoyer, refixer. Parce que c'est très très fragile quand même. Hein. Il ne s'agit pas de passer ça sous l'eau. Bien.
Ça veut dire quoi, 33 cm ?
C'est peut-être pas des centimètres.
C'est je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas.
C'est X.
Je me demande si ce n'est pas plutôt un numéro de référence de l'objet. C'est un peu bizarre, là. Je suis d'accord avec vous. Moi, j'aurais plutôt mis ça ailleurs. Bon.
Mais c'est en dessous.
Pardon ?
C'est en dessous.
Oui, c'est en dessous. Mais j'aurais mis là, quoi. Peut-être, vous voyez. Mais vous voyez aussi que là, le restaurateur a commencé aussi à... faire le profil hein, de tous les fragments pour voir ce qui manque. Première évaluation. Alors, une fois que vous avez fait ça, bon, soit vous laissez ça comme ça en vous disant finalement, c'est pas si mal, voilà, parce que quand même, votre verre, il a, je sais pas, 2 mm d'épaisseur, hein, 2-3 mm d'épaisseur peut-être, c'est pas énorme. Hein. C'est un objet qui est à peu près cette taille. Hein. C'est pas petit, hein.
On ne peut pas essayer de recoller les morceaux en volume, mais sans boucher les membres, de façon à garder le plus de transparence possible. Je ne sais pas si c'est pas bien.
Donc, recoller tous ces éléments, hein, sans combler ce qui manque, pour effectivement garder, pour éviter l'effet truc blanc dessous qui rend tout opaque. Hein. Oui, qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est pas facile, ça sera fragile.
Pas facile, mais...
Fragile.
Alors c'est fragile, voilà. C'est-à-dire que l'idée est effectivement un peu idéale, hein, bonne, mais fragile. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même aller dans ce sens, dire rétablir la transparence relative de cet objet en verre, mais qui, une fois recomposé à partir de ces fragments, parce qu'il y a quand même des manques, hein, notamment en haut, hein. Donc c'est fragile. Hein.
Voilà, faire une base et recoller les morceaux dessous.
Alors, il y a la possibilité, effectivement, de faire une base et de recoller les morceaux dessous, mais la base, on a dit tout à l'heure, c'était pas... Alors peut-être en verre, un gabarit en verre, ou bien peut-être en autre matière, mais effectivement, un gabarit transparent, qui peut être en verre. Donc, dans ces cas-là, on aurait les deux choses, c'est qu'on retrouverait la transparence que vous évoquiez...
Qu'on solide.
Voilà, hein, ça permettrait vraiment d'avoir un support et de, alors de ne pas compléter non plus ce qui manque, parce que là, c'est un peu compliqué. Hein. Comment savoir, par exemple, là, vous aviez un cheval. Hein, il ne reste plus que la queue du cheval est atteinte du cheval, mais le devant du cheval, vous ne pouvez pas trop le deviner. Quoi, hein. Donc c'est difficile de le repeindre. Quoi. Voilà, d'imaginer. Donc effectivement, ce qui a été fait, je crois que la diapositive le montre, voilà, c'est ce que vous avez dit. Voilà l'objet donc, qui a été remonté. Hein. Voilà.
Le pied est en verre. Là.
Le pied est en verre. Ouais, et donc le gabarit, est-ce que c'est du verre ou de la résine? Je ne peux pas vous dire. Hein. Enfin, en tout cas, c'est l'idée que vous disiez. C'est-à-dire qu'on a re... On a, alors, c'est de toute façon un verre, d'abord ancien, hein, qui est sans doute un peu... il y a le nom... quand le verre ancien souvent a des pathologies, si j'ose dire, et le nom me... Voilà, ce qu'on appelle l'irisation. Voilà, il est irisé. L'irisation, si vous voulez, une sorte de pathologie qui fait que le verre se retransforme en espèce de petite couche superposée. Vous voyez ce que je veux dire,
hein. Ah oui, il se feuillette.
Voilà, c'est ce feuillet. Voilà, exactement. C'est feuilleté. Si vous voulez, hein. Et donc, voilà. C'est, et en plus, ça a tendance à faire jaunir le verre. D'où, voilà. Alors, ça n'arrive pas pour tous les verres, pas de la même manière, mais c'est genre de problématique.
Quoi. C'est pas habitué.
Pardon ?
C'est pas le verre habitué.
Alors ça, je ne connais pas du tout ce mot-là.
Je ne suis pas très sûr, mais ouais. Ça me vient à l'esprit.
Peut-être. C'est possible. Voilà, en tout cas, voilà la solution qui a été trouvée. Vous voyez, elle est assez bonne, hein, je crois. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment retrouvé la forme, bien sûr. On a éliminé tous les éléments, carton, métal, bien sûr, mais également le fond en plâtre qui servait de support. On l'a remplacé par un support très peu visible, hein, mais qui sert justement de support à la pièce. La pièce, elle est tenue. Et on n'a pas du tout cherché à combler les vides. Hein. Les manques ne sont pas comblés. Hein.
C'est voilà. C'est
belle chose. Hein. Ouais. Des objets de prestige, ça. Hein.
Des objets. Comment est-ce qu'on le fait ? On le colle ?
Oui. Ah, vous voulez dire sur l'objet ? Sur le support ? Parce que autant les objets, les éléments sont collés, les fragments, si vous voulez, sont collés les uns aux autres. Hein. Oui. Je pense que les fragments ne sont pas collés sur le support, en tout cas pas tous. Ce que je suppose, parce que je n'ai pas la réponse à votre question, je serais très surpris qu'on ait collé tous les éléments sur le support de verre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne me paraît pas très... Voilà. Par contre, ce que je pense, c'est que peut-être il y a des petits ponts de colle, entre guillemets, à certains endroits qui permettent de faire tenir l'ensemble. Je ne sais pas, c'est très clair. Voilà. Parce que je ne pense pas qu'on ait, vous voyez, mis plein de colle derrière tous les fragments pour les remettre sur le... Voilà. Je pense qu'on a collé tous les fragments ensemble et qu'ensuite on a recomposé sur le fût, hein, en quelque sorte, hein, mais par des petits ponts de colle légers, en tout cas, pas créer, si vous voulez, trop d'adhérence des fragments sur le support.
Et alors, le nouveau pied, c'est le pied du gabarit, en fait ?
Oui. Alors, le nouveau pied, je pense qu'il a été un peu inventé. Il reprend un peu le pied précédent. Oui. Je pense qu'on lui a trouvé cette forme-là. Un, parce qu'on était sûr que c'était des vases à pied. Il y en a d'autres, de verres de genre. Hein. À Bégram, il y a eu, vous verrez au musée Guimet, par exemple, il y a plusieurs verres de la même série qui ont été trouvés de ce genre, tout à fait de ce genre, qui ont quelquefois leur pied. Donc, on peut deviner, proposer un pied pour ce verre-là, qui en avait sûrement. Qui ne l'a plus, mais qui en avait sûrement. Voilà. Et donc, oui, c'est donc un verre, si vous voulez, qui a un pied qui, par sa forme, sa taille, sa silhouette, rappelle des autres pieds, des autres verres, et peut correspondre à un genre de verre. Voilà.
Non décoré.
Mais c'est
parce que, de toute façon, tous les éléments rajoutés Par exemple, le corps du vase ici ou là derrière n'est pas décoré, effectivement. Tout ce qui est disparu est restitué en retrait, pourrait-on dire, mais non décoré.
Et ce pied, justement, est-ce qu'il est pris dans le gabarit?
Ah, je pense. Je peux pas. Je pense. Je peux pas vous en assurer absolument. J'ai regardé le rapport de restauration, mais c'était assez limité. Enfin, ce que j'ai vu était liminaire. Mais je pense. Ouais. D'accord. Ok. Enfin, vous voyez quand même qu'avec du verre, très léger, très fin, très fragile, et dans un état,
c'est difficile.
On arrive à faire des choses étonnantes. Voilà, là, je voulais vous montrer un autre objet du trésor de Bégram. Qu'est-ce qui s'est passé là, à votre avis ? Le revêtement est parti ? Le col est parti, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Voilà. Oui, alors, c'est un objet en verre. Hein. Ce que vous avez là, c'est du verre aussi. Hein. Et effectivement, la partie bleu clair... Parce que c'est du bleu, hein. Là, c'est bleu clair, a été reconstitué. Qu'est-ce qui a autorisé le fait qu'on a reconstitué ce goulot de cette bouteille ?
Parce qu'on en connaît d'autres.
Alors, oui, et puis...
Il y a une partie quand même.
Voilà, c'est ça. Il y a une partie quand même, c'est-à-dire que tout ça est original. Hein. Jusqu'au bout, hein. Autrement dit, il est...
Archéologiquement.
Il est archéologiquement complet. Donc, on peut s'autoriser, parce que s'il n'y avait pas le goulot, par exemple... Difficile de reconstituer, hein. Vous voyez. Hein. Là, il y a un morceau du goulot, alors pas un gros morceau, mais il y a un morceau quand même, qui fait qu'on arrive à reconstituer. Hein. Et vous remarquez quoi par rapport à cette reconstitution, justement ? Et par rapport à cette déontologie, la restauration des objets en céramique ou en verre archéologique dont on a déjà parlé, il y a deux éléments, moi, qui me frappent.
C'est pas la même couleur.
Voilà, un, c'est pas la même couleur. Alors, c'est pas loin, parce que c'est, en gros, le même bleu. Hein, d'ailleurs, vous voyez là, évidemment, le corps de la bouteille est plus encrassé aussi, mais c'est plus foncé, là, plus clair, mais c'est le même bleu. Hein. Mais un bleu, évidemment, on a utilisé un bleu plus léger pour la partie du goulot reconstituée. Et puis, peut-être vous remarquez une autre chose, c'est pas très très visible, mais quand même.
Mais alors, comment on réunit la partie archéologique ancienne à ce verre-là ? Est-ce qu'il faut, il faut le couler avant ? Mais ça doit être...
Oui, c'est pas...
Impressionnant comme...
Ben oui, c'est un...
Parce qu'il faut joindre les parties, ouais. On ne peut pas les chauffer.
En tout cas, pas trop.
On prendrait des risques terribles.
Ouais.
On peut
ah
pas...
oui, ben...
On peut pas... Est-ce que c'est pas soufflé, c'est pas tourné, c'est...
Oui, oui, je... Alors, je pense que là, c'est recomposé avec une résine, à mon avis. Hein.
Ah, et pas
une
un
résine
verre.
Colorée, pas du verre.
Pas du verre, parce que...
C'est une résine colorée, donc pas besoin de chauffer. Il faut évidemment mouler, hein, c'est-à-dire faire un gabarit.
Oui, mais alors là, une résine, ça marche.
Voilà.
Une résine, c'est... Voilà. C'est...
ça va.
Et c'est en retrait, voilà. Exactement, c'est en retrait. Hein. Vous voyez peut-être là, que là, il y a un retrait. C'est-à-dire que c'est pas dans la continuité. Vous voyez, le retrait et la couleur, mais... Un ton en dessous, c'est des éléments qui font partie des règles de cette recomposition, de cette restitution des parties manquantes dans les objets archéologiques. Bien. Cinquième dossier. Oh, il n'est que 8h30. On a
la vie.
8h30.
Ah, mais c'est grec.
Ah, ça c'est. Ça c'est grec.
Ah,
ouf.
Voilà, ouf. Il est entier.
Il est entier. Enfin. C'est quoi comme objet grec, ça ?
C'est
une urne. Alors,
non,
ça, en Grèce, c'est un
nom.
Oui, c'est un cratère.
Un cratère. Ouais. Un cratère. Vous dateriez ça de quand, à vue de nez ? Tôt, tard, au milieu ?
Avant Jésus-Christ.
Avant Jésus-Christ, oui.
6e.
Pardon ? Période classique. Donc, en termes... 5, 6e ?
Oui,
6, 4e.
Oh.
Allez, un petit 3e. Donc on serait dans la période classique grecque. Parce qu'il y a effectivement une période archaïque, classique, hellénistique. Donc on serait dans la période classique grecque. Et c'est quoi ? C'est grosso modo, la période classique grecque, c'est quoi en termes de siècle ? En gros.
C'est Périclès.
Voilà. Et donc, c'est quel siècle, ça ?
Quatrième. Quatrième, cinquième.
Lequel ?
Cinquième. Cinquième. Hein. Le classicisme grec, c'est le cinquième siècle, Parthénon, etc. Cinquième siècle avant Jésus-Christ. Là, on est effectivement au début de l'époque classique, mais à la fin de l'époque archaïque. C'est-à-dire qu'on est extrême fin sixième, c'est ça, tout début cinquième. On est plutôt à l'extrême fin, du sixième siècle, hein, autour de 510-520, si vous voulez, avant Jésus-Christ. Hein.
Mais alors, les peintures étaient plus souples que les sculptures.
Là, vous êtes quand même à la fin. Donc, vous rappelez par rapport à peut-être ce que vous aviez vu, ce qu'on a vu. On est à l'époque, par exemple, les fêtes de Critios, ou juste comme ça. Je ne sais pas si vous rappelez. C'est-à-dire de sculptures qui sont quand même, qui ne sont pas les corées, enfin les corailles, très clung, qu'on a vu au départ, hein, qui datent plutôt de 580. Hein. Là, on est vraiment plus d'un demi-siècle après, vous voyez, à la fin de l'époque archaïque et au début de l'époque classique. C'est déjà, vous savez, c'est pas. Il n'y a pas un coup près qui tombe, évidemment. Hein. Donc là, on est vraiment à la fin de l'époque arriérée, au début de l'époque classique. Généralement, cet objet est plutôt placé, d'ailleurs, au début de l'époque classique, à la fin de l'époque archaïque. On le trouve plutôt classique archaïque, pour faire vite. Hein. Alors, vous voyez ce que ça représente ?
Des dieux,
des lutteurs. Effectivement, il y a une lutte, là.
Derrière,
il y a effectivement deux figures. Cette lutte, ça peut être quoi ? Vous allez me dire des luttes antiquité grecque. Il y a quand même quelques lutteurs émérites, si j'ose dire. Bon, parce que ça peut être une scène. Cette scène, ça peut être quoi ? Bon, c'est une scène de lutte. Bon, une scène de lutte. Entre qui et qui ?
Mais ça peut être entre des
dieux. Coquine ?
Oh non ! Non !
Je pense pas.
Franchement, non. Mais violent.
Ah, Jeux Olympiques, c'est-à-dire que ce serait une lutte, je veux dire, entre deux personnages normaux. Enfin, je veux dire, de deux. On est dans un. Après tout, dans beaucoup de céramiques grecques, hein, on voit des scènes de la vie quotidienne, notamment des scènes de palestre et des scènes de lutte. Donc, on a là deux athlètes qui luttent.
Oui, mais pourquoi des femmes, alors, derrière ?
Pourquoi des femmes à l'arrière ?
Ça va pas.
Ouais, donc effectivement, il y a une histoire. C'est-à-dire que cette scène-là pourrait être une scène de lutte dans une palestre, par exemple, hein, entre deux athlètes. Oui. Hein. Mais effectivement, elle présente des femmes à l'arrière qui, dans la vie courante, ne sont pas comme ça au milieu des hommes qui luttent. Hein. Ça ne colle pas, ça. Un peu un problème. Donc c'est plutôt une histoire. Une histoire tirée de quoi ?
D'honneur,
non ? Voilà, alors ça peut être, voilà, une histoire tirée d'un grand texte, Iliade et Odyssée, par exemple, oui. Peut-être. Ou bien de quoi ? De la mythologie. Si vous imaginez mythologie, qu'est-ce que vous voyez comme. On vous dirait que les dieux, ils n'arrêtent pas de se bagarrer avec tout le monde, mais je ne sais pas, il y a peut-être quelques dieux plus batailleurs que les autres.
Arès,
oui, dieu de la guerre. Effectivement. Puis il y en a un quand même.
Hein.
Il y en a quand même un qui est une sorte de demi-dieu d'ailleurs, puisqu'un dieu.
Héraclès.
Hein. Héraclès, les 12 travaux, enfin les 12 travaux, c'est ceux qu'on connaît, mais il y en a eu beaucoup plus que 12. Hein. Héraclès, effectivement, il a pas arrêté de lutter avec plein de gens. Hein. Et notamment, il a lutté contre un personnage, ça vous dit quelque chose ça ? Qui s'appelle Anté. Vous voyez quelque chose, ça ? Héraclès et Anté ? Anté, en fait, il avait... il me semble que c'est celui-là. Il tenait, si je ne me trompe pas, c'est ça. J'aurais dû vérifier. Il tenait sa force de la terre, parce qu'il était le fils de Gaïa. Hein, Gaïa, c'est la terre. Et donc, quand il était sur terre, il était invincible. Héraclès a dû, parce que son cousin lui a demandé, vous savez, les fameux travaux, hein, alors, il y en a eu 12 plus, des centaines d'autres, et parmi les travaux qu'il a demandé, c'est de tuer Anté. C'était impossible, parce que Anté, quand il était sur terre, il était invincible. Donc Héraclès n'a pas eu de solution que de le lever de terre et de le tuer en le levant. Donc là, il est en train d'essayer de bagarrer avec lui. C'est pas simple, hein. Mais enfin, bon, il essaie. Voilà. Donc ce serait la lutte d'Héraclès et d'Anté. Bien.
Et des femmes derrière.
Alors, dans une des versions, parce qu'il y en a plusieurs, alors je ne pourrais plus vous dire exactement ce qui se passe, mais il y a effectivement des femmes qui sont... Alors, je ne sais plus si elles sont liées à Héraclès ou à Anté. Je ne sais pas si Anté n'a pas emprisonné un certain nombre de femmes, enfin quelque chose...
C'est les supporters.
Voilà.
Elles...
En quelque sorte. Alors, donc voilà pour ce cratère de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Par parenthèse, on connaît par des inscriptions qu'il y a sur le vase que vous voyez que par endroits, il y a des choses qui sont inscrites. Oui. Hein, vous le devinez, oui, ici ou là. Chiffre, oui. Et là, par exemple, hein, si je m'abuse, là, il est marqué Héraclès. Bon. Oui, on le voit mal. Mais... et donc, on sait à la fois qui a fait le vase, la forme, et qui a peint le vase.
Ah, oui.
Et le peintre qui a peint le vase s'appelle Euphronios. Hein, Euphronios, ça a été un des grands peintres de vases en Grèce à la fin du siècle, au début du 5e siècle.
Il y a eu une exposition.
Il y a eu une exposition au Louvre il y a quelques années sur Euphronios, absolument. Oui. Bien. Alors, ce vase, qu'est-ce que vous en pensez? En termes, cette fois, donc on a vu de quoi il s'agissait, mais un restaurateur commence déjà à regarder. Hein, ce vase, qu'est-ce que vous en diriez en termes de conservation et restauration?
Bon, rien.
Rien. Tout va bien.
Bah, il a été quand même...
On a l'impression qu'il a déjà été
restauré. On a l'impression qu'il a déjà été restauré.
Il y a un trait.
Ouais. À quel endroit, par exemple, on peut dire qu'il a déjà été restauré?
À gauche.
À gauche.
Il y a le pied.
Au pied?
Oui.
Oui, qu'est-ce qui vous paraît spécial au pied?
C'est
oui, voilà, oui, parce que la partie gauche du pied, vous voyez, elle est nickel chrome, hein, et la partie droite, moins. Laquelle est la partie originale?
Droite,
c'est originale, et à gauche, elle n'est pas. C'est juste. Hein, voilà. Donc, c'est un vase qui, quand on voit comme ça, on se dit c'est très bien, mais dont on voit qu'il a été, à un moment ou à un autre, déjà restauré. Bien. Pardon.
Lance à gauche.
Lance, oui. Alors justement, je vais vous montrer deux photos de ce même vase. Alors déjà, le cratère, hein, voilà, le cratère peint par Euphronios, vers 500 avant Jésus-Christ, Herculéanté, etc. Maintenant, je vais vous montrer deux photos de ce vase. Cette photo-là et celle-là. Elles sont pas très bonnes, je suis désolé, mais voilà. Alors moi, je voudrais que vous me disiez quelle est la photo. Vous voyez peut-être pas.
Ah ben là, on voit la fracture.
Alors voilà, je voudrais que vous me disiez quelle est la photo avant et quelle est la photo après l'instauration.
Ça, c'est avant.
Ça, c'est avant. Ça, c'est après.
Oui, oui. Mais on voit...
Là, on a la photo avant l'instauration. Là, on a la photo après l'instauration.
Oui, ça a été refait.
Eh ben, c'est l'inverse.
Non.
C'est ça, la photo après l'instauration. Donc, ils vont abîmer. C'est-à-dire que quelqu'un au Louvre, parce que cet objet appartient au gars du Louvre, hein, s'est pris les pieds dans le tapis, paf, a laissé tomber le vase. Il a fallu le recoller. Ce serait ça l'idée?
Oui.
Ouais.
Non.
Puisqu'on a ici quelque chose qui vous paraît, a priori, moins en état que ça.
Oui, mais...
Voilà.
Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, on a enlevé les restaurations. On a dérestauré. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a dérestauré?
Parce que c'était mal restauré.
Parce que c'était mal restauré et que notamment cet objet qui a été découvert au 19e siècle, cet objet, il fait partie de la collection du marquis Campana. Ça vous dit quelque chose, ça?
Oui.
Ah oui. Quelque chose. Le marquis Campana, il y a actuellement une exposition au Louvre là-dessus. Le marquis Campana était un personnage qui était le responsable du Mont Piété à Rome au milieu du 19e siècle, un type assez riche, qui a amassé une collection considérable de peintures, sculptures, objets archéologiques, etc. Le problème, c'est que dans les années 1860, hein, je n'ai pas la date précise en tête, il a complètement périclité, il a fallu qu'il vende sa collection, et sa collection a été achetée par Napoléon III.
Il aimait bien taper.
Ouais. Et Napoléon III a en fait déposé cette collection au Louvre, elle est toujours. Et il y a actuellement une exposition au Louvre là-dessus. Et le problème, qui n'en est pas forcément, de la collection Campana, c'est qu'elle a été au XIXe siècle par Campana lui-même et les équipes qu'il avait pour donner un petit air de fête aux objets qui étaient trouvés dans des fouilles archéologiques plus ou moins qualifiées. Hein. Les gens qui avaient autour de lui bricolaient ça et restauraient quelquefois de manière un peu abusive. Hein. Et justement, c'est le cas pour beaucoup de ces vases. ces vases grecs, découverts en Italie dans les tombes étrusques au XIXe siècle, ont souvent été recollés, puis Vous avez remarqué pour le pied tout à l'heure, hein. Vous avez remarqué que le pied, il était un peu...
Un peu neuf.
Voilà, un peu neuf, hein. Il y a un côté nickelé, voilà, hein. Alors là, évidemment, ça fait moins neuf, mais au moins, on voit ce qui est antique et ce qui ne l'est pas, hein. Alors évidemment, il y a des choses qui peuvent choquer. Par exemple, vous voyez que là, c'est très épidermé. Hein. Et les restaurateurs de Campana, ils vous flanquaient là-dessus de la cire pour que ça ait un petit air bien propre. Hein. Le problème, c'est que c'était pas toujours juste, quoi. Hein. Et que très souvent, ces vases cassés, ben, quand on les a repeints, on a parfois repeint bien au-delà des cassures, si vous voulez. Hein. La retouche était, comme on dit, envahissante. Parce que là, vous voyez, par exemple, les cassures, hein, elles sont bien circonscrites. Hein. Mais les restaurateurs du Marquis Campana, oh, ben, ils peignaient en gros tout ça. Puis puisque là, il y avait des trous, ben, on peignait aussi. Puis bon, ben, on peignait peut-être un petit peu plus loin. Puis quelquefois, on peignait là, ce qui fait que là, vous voyez une inscription, par exemple. Hein. Ben, cette inscription, elle a plus ou moins été recouverte au 19e par les restaurations envahissantes. On a retrouvé des tas de choses en dérestaurant les vases Campana. Quelquefois même, imaginez, que certains vases, pas celui-là, hein, mais d'autres, la collection Campana, quand il manquait des morceaux, par exemple, imaginez qu'il ait manqué un gros morceau là, hein, ben on prenait un morceau d'un autre vase, on mettait à l'intérieur. Donc on faisait du bricolage. Alors la dérestauration des vases à collection Campana a été un grand chantier. On a trouvé plein de trucs comme ça. Alors je crois que j'ai même une photo de l'arrière. Alors voilà une photo de plus près, hein, du vase dérestauré. Au Louvre aujourd'hui, vous le voyez comme ça. Alors ça peut apparaître moins brillant, n'est-ce pas, que ce qu'il y avait avant, sauf que c'est plus juste. Donc la restauration, c'est pas non plus toujours faire des choses impeccables, bien propres, etc. Hein, mais là, par exemple, vous avez des choses qui manquent. Hein. Tout à l'heure, ça se voyait pas, mais voilà. Alors, la cassure, elle continue là. Hein, c'est-à-dire qu'on a quand même repeint en noir ou en clair, selon ce que c'est. Mais on a parfait les cheveux, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, à l'arrière, c'est pareil, parce que sur ces cratères... Alors voilà, le cratère en partie démonté, parce que là aussi, hein, il a fallu complètement démonter. Même chose que pour le trésor de Bégrave. Hein. Là, vous voyez une partie des morceaux. Ils n'y sont pas tous, mais une partie des morceaux. Hein. Vous reconnaissez nos dames, là. Hein. Puis là, vous voyez les deux personnages. Ouais, deux lutteurs. Alors voilà l'arrière, avant la dérestauration. Et voilà l'arrière, après la dérestauration. Alors aujourd'hui, vous voyez ça. Bon. Alors vous dites, bah oui, on voit les cassures, mais au moins, bah, c'est plus vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Plus authentique. Alors on pourrait, peut-être que je ne sais pas si cette photo est une photo du vase tout à fait terminée. On pourrait imaginer, par exemple, de repeindre très légèrement, vous voyez ça, sans envahir. Hein. Les restaurateurs Campana, encore une fois, vous flanquez de la peinture partout. On pourrait faire ça pour un peu calmer le jeu. Hein. C'est ce qui a été fait sur l'autre côté. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Hein. Donc je ne sais pas si cette photo-là est une photo, la restauration terminée ou pas. En tout cas, on est là devant quelque chose qui a été dérestauré et dont la restauration est plus juste, si vous voulez, plus vrai que ce que l'on a vu précédemment. Sixième, il est moins 20, on est encore dans les temps. Ah, maintenant, je fais attention.
Ah ben oui, c'est bien.
Un traumatisme une semaine, oui, mais pas deux. Hein. Je me soigne.
Alors, on l'a déjà vu.
Vous l'avez déjà vu. Je vous l'ai montré effectivement au moins la première séance. Hein, où je vous avais montré un peu un vrac d'objets, comme ça, autour duquel on a commencé à gamberger un peu. Qu'est-ce que vous avez là? L'ébauche d'un tableau. Alors, c'est quoi précisément d'ailleurs? C'est une esquisse?
Oui. C'est un dessin préparatoire.
C'est un dessin préparatoire. C'est un dessin préparatoire. Donc, ce n'est pas une peinture, ce n'est pas une esquisse peinte, c'est bien un dessin. Un dessin esquissé pour... Vous avez une idée de l'époque et peut-être même de l'auteur.
Oui, mais autant de Louis XIV pour la Galerie des Glaces.
Absolument. Hein, on en avait, je crois, parlé l'autre jour. Hein. C'est effectivement un dessin préparatoire pour les peintures de la voûte de la Galerie des Glaces réalisées par... Charles Lebrun. Hein. Charles Lebrun a réalisé cela. Bien. Donc là, vous avez un décor, la préparation d'un décor pour la Galerie des Glaces. Bien. C'est un dessin, grande dimension. Hein. Ça doit faire 2 mètres de long, ça. Hein. C'est pas. Voilà. C'est fait à grandeur, ça. Le problème, c'est quoi?
Mais
c'est... Vous avez dit que ça avait été collé et du coup ça avait abîmé.
Absolument. Vous avez tout à fait raison. Ça a été recollé. Et alors, où est-ce que vous pouvez situer justement les problèmes sur la diapositive?
Tout ce qui est blanc.
Voilà, tout ce qui est blanc. Hein. Qui est dû à quoi, à votre avis?
Une altération de la colle.
Voilà, une altération de la colle.
Probablement des problèmes d'acidité.
Voilà, absolument. Parce que le gros problème pour les simples, ce dessin, qu'est-ce qu'il a d'ailleurs comme, comme pathologie justement? Qu'est-ce qu'il a eu comme problème, ce grand dessin? Voilà, absolument, il est déchiré, vous voyez, là, vous voyez là la limite du dessin. Et on avait vu l'autre fois que le lion, bah, il en manque la moitié, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Hein. Donc ce dessin, il a été déchiré. Voilà le bord du dessin. Alors ce pauvre dessin déchiré, comment est-ce qu'on a fait, autrefois, hein, pour qu'il soit présentable?
On l'a marouflé sur une toile,
On l'a marouflé sur une toile, voilà, hein. Que vous voyez là. Simplement, sur une toile ou peut-être d'ailleurs sur un grand papier, mais, ou sur un papier marouflé sur toile, c'est possible aussi. En tout cas, on l'a marouflé, on l'a collé sur un support. Hein. Et alors, quel type de problème ça peut poser, ça?
Il y a un visage en haut et à gauche.
Oui.
Dans la colle.
Oui, oui, ben voilà. C'est-à-dire que vous avez en effet la, voilà celui-là. Hein. Donc, oui. Vous avez une espèce de nuage blanc qui, d'abord, n'est pas vraiment à voir, hein, la preuve. Mais qui en plus fait part bien au papier.
Il faut arriver à le neutraliser.
Voilà.
Neutraliser chimiquement.
Pardon ?
Neutraliser chimiquement.
Chimiquement. Comment est-ce que, alors qu'est-ce que vous avez fait pour une œuvre comme ça ?
On décolle ?
On va le décoller. On va le décoller. Parce qu'en fait, le problème, c'est un, la colle, et puis deux,
le recollage.
Alors le recollage, la colle elle-même, effectivement.
Et c'est une colle de quelle date?
Alors, je ne sais pas quelle était la colle utilisée là, mais visiblement, elle n'a pas vraiment convenu au dessin. Mais l'autre problème, c'est aussi le support sur lequel on a encollé le dessin. Hein. Vous parliez tout à l'heure d'acidité. Ça, c'est un gros problème, parce que souvent, les dessins, vous savez, on a des petits dessins, puis on les fait encadrer, etc. Mais souvent, les encadreurs les collent sur des papiers ou des cartons qui sont très acides. Et donc, qui acidifie complètement le dessin qu'il supporte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, il est important de coller ces dessins sur des supports non acides.
Et on a même des papiers supports avec réserve alcaline.
Vous voyez, on a ça aussi, ça existe. Donc, ça, c'est très important.
Et on encadre toujours avec des papiers barrières.
Absolument, ça, c'est très important. Et c'est le support sur lequel le dessin est placé. C'est capital, parce qu'autrement, l'acidité va migrer du support au dessin. Et ça vous donne des problèmes comme ça. Alors là, je vous montre ce dessin restauré. Vous allez voir que ce n'est pas pareil, quand même. Voilà. Parce qu'il a fallu aussi désacidifier le dessin, puisque l'acidité du support avait migré dans le dessin lui-même. C'est un peu plus lisible et convenable. Hein. Et là, il est refixé sur un support non acide.
Oui.
D'accord. Septième. Il y en a 8. Hein.
Alors
je vous montre ici, et je vous l'avais déjà montré la fois dernière, une vue d'un salon, le salon jaune, au château de Fontainebleau. On est au début du 19e siècle. Donc voilà le salon en question. Dont vous remarquez qu'il y a quelques petits problèmes au niveau des tentures. Je vais vous montrer deux vues de détail du salon en question et je vais vous demander un peu ce que vous voyez concernant d'éventuelles restaurations qui ont été réalisées. Voilà une vue. Voilà une deuxième vue. Alors, on peut commencer par ça. Là, quelle a été l'intervention de restauration et qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a eu restauration sur quoi?
C'est à vous de voir, justement.
Le fauteuil,
L'écran pare-feu, effectivement, a été restauré. Qu'est-ce qu'on y a fait? On a carrément changé
la soirée.
C'est-à-dire qu'on l'a déposé et on l'a remplacé par...
Ça dépend. Est-ce qu'on l'a vertissé?
On a vertissé une soirée nouvelle.
Mais est-ce qu'elle était identique à la précédente?
On a fait quelque chose d'assez identique à la précédente.
Est-ce qu'on peut reprendre le motif?
Voilà. Donc on a remplacé le tissu ancien par ce tissu-là, qui est la copie. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça fait
vif. C'est vif. Et ça vous plaît? Ça vous plaît pas? Vous êtes responsable du château de Fontainebleau. Qu'est-ce que vous faites? Vous virez toutes les autres soirées, puis vous, vous nous mettez du propre à la place? Ou bien, qu'est-ce que vous faites?
Alors,
on cherche pourquoi? Il y a tant d'écart, non?
Il y a, pardon?
Il y a trop d'écart.
Il y a trop d'écart. C'est-à-dire qu'effectivement, entre ça, nickel, n'est-ce pas, hein, tout récent, hein, et ça, nettement plus fatigué, ça a deux siècles, il y avait un écart un peu compliqué. Hein. Sur la vue précédente, ça se voit moins, tiens, ça se voit mieux.
Alors, le rideau à droite.
Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que... Mais ça se voit moins là que sur mon ordi, c'est curieux.
Comme toujours.
Ouais. C'est-à-dire que là, ça et ça a été entièrement refait.
Oui.
Alors que ça, c'est les éléments anciens.
Ah, oui.
C'est-à-dire qu'on a carrément... Oui, vous voyez que c'est quand même... Je ne sais pas ce que ça donne dans le fond.
Oui,
dans le fond, on voit mieux. Hein. Les deux rideaux sont vraiment jaunes, pétants. Ils ont été recréés il y a dans les années 70, si je ne m'abuse. Et les autres sont les anciens, d'ailleurs. On voit bien qu'il y a eu des petits problèmes.
Là, il y a une pièce, il y a un manque.
Oui, il y a une pièce qui a été... Alors, il faut... Oui, c'est, je trouve que c'est ça.
Oui, mais alors, on ne pourrait pas aller chercher dans les réserves parce qu'il y a des tissus non utilisés quelquefois.
Quelquefois, il y a des tissus non utilisés. Là, et là, ça n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pardon. Alors, on peut nettoyer les anciens et c'est même conseillé parce que c'est un, tout ça est un peu poussiéreux. Voilà. Et alors, pour les nettoyer, on fait quoi d'ailleurs? Je ne vous demande pas dans le détail, parce que... Mais,
l'aspirateur.
Oui, mais avant toute chose, donc on règle l'aspirateur et boum, on dit...
Non.
On va tout démonter, une fois de plus, hein, on démonte. Parce qu'on ne peut pas dire, bah, tiens, on y va, il faut démonter, enlever les bordures, les moulures, démonter, il faut démonter.
Ah, les moulures. Ah, c'est des...
Alors, il y a d'autant qu'il y a des tas de problèmes. Hein. Là, d'ailleurs, vous avez, justement, une vue d'un panneau pendant le nettoyage. C'est nettoyé à droite, ça n'est pas à gauche, vous aurez compris. Hein, voilà. Donc, vous voyez que c'est crasseux. Hein. Alors, il y a des tas de pathologies. Il y a ça, par exemple. Ça, c'est quoi, ça?
Un trou.
Voilà, une pièce.
Un manque.
Un trou, hein, une pièce. Il y a ça. Non, c'est des... C'est une trace de clou, en fait.
Oui, c'est de la rouille. À l'époque,
sous grec, on a dû plier à ce niveau-là, clouer, mais ça a été rabattu dessous, donc c'est une trace des clous, la rouille a fait son œuvre. C'est pas formidable. Hein.
Les épingles, c'est une horreur.
Une horreur. Ça... Voilà, vous savez, la soie, ça fuse. Ça, c'est de la toile fusée, typiquement. Ah oui, alors, ça je vous ai... Oui, voilà, je voulais vous montrer ça. Là, à votre avis, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors, c'est, ça a été nettoyé.
Les deux côtés.
On n'a pas changé le...
Mais alors, justement, pas tout à fait. À votre avis, qu'est-ce qu'on a pu faire? Parce qu'en effet, le gros problème, c'est que ces panneaux de soie qui couvrent les murs sont en mauvais état. Ils ont toutes les pathologies que je vous ai montrées. Qu'on peut un peu traiter... On va nettoyer, on va créer quand même des supports divers et variés pour éviter que les parties fusées poursuivent de s'abîmer, etc. Hein, là où il y a des trous de clous, on va éviter également que ça continue. Bien. Donc on va consolider. Mais tout ça, même si ça permet d'y voir plus clair, ne va pas redonner au décor le caractère un peu vif et vibrant qu'il avait naguère. Et en même temps, on n'a pas forcément envie d'avoir le côté clinquant qu'on avait au départ. Alors, ce qui fait qu'à Fontainebleau, il y a une chose tout à fait nouvelle qui a été trouvée et développée ces dernières années. C'est absolument novateur. Certains d'entre vous en avaient vu le résultat quand, il y a quelques années, on est allé à Fontainebleau et qu'on avait vu notamment ce salon-là. Et le résultat est remarquable. Qu'est-ce qu'on a fait, à votre avis? On n'a pas reteinté. Parce qu'on n'a pas le droit.
Mais alors, est-ce que c'est totalement tissé ou si on a brodé?
Vous voulez dire sur l'original?
Oui, et au centre.
Alors, c'est tissé, mais brodé. Les motifs sont brodés par-dessus.
Par-dessus. Hein.
Voilà. C'est-à-dire on a les laits de soie, et par-dessus, on a brodé.
Oui, mais brodé à la main ou...
À la main.
Oui, non. Non, parce qu'il peut y avoir aussi des damas ou des les lampas qui donnent d'autres
impressions. Absolument. Non, c'est brodé à la main.
Non, c'est brodé.
C'est brodé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour garder l'original et en même temps lui redonner cet aspect-là que vous voyez au centre?
On n'a pas rebrodé par-dessus, quand même.
Non, mais... Non, mais... Non, parce qu'on n'a pas le droit de toucher l'original. Vous donnez votre langue au chat?
Ah oui.
Eh bien, on a utilisé une crépline, c'est-à-dire une sorte de tissu transparent extrêmement léger, hein, qu'on a imprimé du motif original avec les couleurs du motif original et qu'on s'est contenté de poser dessus. C'est-à-dire que là, vous avez en dessous partout l'original et par-dessus, vous avez une sorte de sérigraphie imprimé sur la crépline qui est simplement posée sur l'original. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est un procédé tout à fait nouveau qui a beaucoup d'avantages, que ça permet de redonner à la fois la couleur, l'éclat des corps originaux, sans avoir ce côté clinquant des choses totalement refaites que nous avons vues tout à l'heure.
Mais c'est imprimé avec quoi?
C'est fait avec une technique de sérigraphie.
Oui.
Ah. Et ça va durer?
Ben oui.
On va certainement faire attention pour que ce soit le cas. C'est-à-dire, par exemple, ne plus laisser les fenêtres grandes ouvertes. Éviter, évidemment, d'ailleurs, on l'a vu quand on était allé à Fontainebleau, hein, ouais. Ce n'est pas des lieux ouverts en visite libre, hein, toujours accompagnés. On est toujours tenu loin des parois pour ne pas les toucher. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Alors après, dans 3000 ans, on ne sera peut-être plus très en forme, mais voilà. Voilà. En tout cas, l'idée, c'est de remettre en état, d'assurer la conservation de la base, et par-dessus, de mettre cette crépline qui donne, en fait, ça. Voilà le panneau.
C'est bien, voilà. Ça, c'est joli.
Donc, c'est une chose, quand même, hein, que les rideaux complètement refaits, ou surtout, je trouve horrible, cet écran de cheminée, qui est vraiment une verrue, quoi. Enfin, voilà ce que ça donne. Donc, vous avez l'original, il est toujours là présent, c'est la base. Et par-dessus, vous avez une sorte de calque, finalement, mais de calque de tissu très léger, doucement teint, ce qui fait que vous avez encore, j'allais dire, la patine de l'original qui est là, vous voyez ce que je veux dire? C'est une méthode tout à fait nouvelle, ça a été complexe à mettre en place, c'est assez exemplaire, je crois que ça n'avait jamais été fait au monde avant, et le résultat, moi je trouve, est remarquablement efficace.
Pour tendre et faire coïncider...
Ah oui, je pense que... Ouais. Aïe. Je pense que ça a coûté 3 sous aussi, d'ailleurs, mais voilà, je pense que c'est pas mal. On se fait le dernier dossier?
Ouais.
On a le temps. Que se passe-t-il? Oui, on nettoie un objet.
On cherche.
Cet objet, c'est quoi, peut-être? Pardon. Oui, alors c'est un objet, ça pourrait être une poterie. Il est où l'objet, là? Vous voyez quoi?
Dans la terre?
Bah, peut-être encore largement dans la terre, effectivement. Mais autrement dit, ça veut dire quoi? Puisque là, on sait, cette scène, elle a lieu où?
Au laboratoire.
Sur la fouille?
Ah non, à l'atelier.
Pas sur la fouille. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Dans un atelier. Dans un atelier. Donc on a... Voilà. On a extrait l'objet avec sa motte, quoi. Plutôt que de voir l'objet, de gratter et puis hop, de le retirer, on a extrait l'objet avec sa motte. Donc là, c'est en fait une micro-fouille en atelier. Parce que quelquefois, si on fait ça sur le terrain, l'objet il peut avoir des problèmes. Hein. Or que le fait d'amener ça en atelier et de faire la fouille de la motte en atelier fait qu'on peut... intervenir tout de suite sur le pied.
Mais comment on sait
qu'il y a quelque chose dessous?
Ben parce que vous en voyez quand même.
Mais oui, ça dépasse.
Voilà. Hein. Vous en voyez quand même. Alors, c'est assez peu visible, hein, mais vous en voyez quand même des restes, là. Hein. Voilà. Notamment par là. Hein.
Ouais.
C'est peu visible.
Tout ce qu'ils ont déjà
puis l'environnement a pu guider vers...
Voilà.
Mais c'est
voilà.
Ça,
oui. Voilà. Là, c'est une petite écuelle antique en tôle de bronze qui a été découverte. C'est prélevé en motte. Vous prélevez la motte, quoi. L'objet est dedans. Alors, vous envoyez quand même des éléments qui vous permettent de voir qu'il y a quelque chose. Hein. Et vous faites la fouille après, ce qui vous permet tout de suite de pallier les problèmes.
Comment ça se fait que le bronze est blanc
comme ça ? Alors, ce que vous voyez en blanc, je ne suis pas sûr que ce soit le bronze. Je me demande si ce n'est pas un papier japon qui a été posé pour permettre le prélèvement de la motte. Voilà. Je pense que c'est plutôt ça. Ce serait du plomb, on comprendrait, mais là... Et alors là ? Qu'est-ce que c'est ça ?
Un gâteau.
Un gâteau. Bon. Ça n'est pas un cours de cuisine. Il me semblait vous l'avoir précisé.
C'était pas dans les règles.
Pardon ? Ah oui, oui, non. Mais je vois ce que vous dites. Oui, c'est pas une poche d'un oxy. Ça n'est pas un gâteau au chocolat. Bon, c'est bientôt l'heure de dîner, mais tout de suite.
Un objet entier, là.
C'est même plus. En fait, c'est la même chose qu'avant. C'est un objet qui a été prélevé en motte. Là, c'est un objet en os. C'est un peigne. C'est un peigne qu'on les faisait dans l'Antiquité. Enfin, là, il est mérovingien. Hein. C'est-à-dire qu'un peigne, vous avez une barre centrale et de chaque côté, vous avez des petites dents. Donc, vous avez là la partie centrale et là, vous devinez... Voilà, là, la partie centrale et là, vous devinez les dents et puis de l'autre côté aussi. Alors, puisque c'est horriblement fragile, c'est la même chose, on va prélever en motte et il va être fouillé en laboratoire. C'est quand même plus simple que sur un chantier où on voit pas très bien ce qu'on fait. D'accord ? Et alors, on l'a laissé dans un papier cellophane pour que l'humidité reste là, enfin, qu'il ne soit pas traumatisé d'emblée. Oui, c'est une radio. Ce que vous avez, c'est une radio de quoi ?
D'une boucle de ceinture mérovingienne.
Alors, c'est ça, d'une boucle de ceinture mérovingienne. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez un objet qui, quand on le voit, a priori, est assez... Tiens, c'est que ce gros animal, là.
C'est une...
Bon. Enfin, bref, il y a un animal. Voilà. Donc, c'est une boucle de ceinture assez corrodée. Et là, vous en avez, effectivement, la radio. Vous savez, la dernière fois, on a vu des radios de peinture. Hein. Ça, c'est une radio d'objets en métal. Ça donne, vous voyez, de très bons résultats. Hein. Voilà. Là, vous avez à nouveau la radio. Et à droite, là, sous l'animal qui passe, vous avez la boucle de ceinture, une fois dégagée de sa gangue. J'avais pas, hélas, de vue de la boucle sans radio, si j'ose dire.
Dans la première vue de la radio, la boucle est encore dans sa gangue.
Absolument. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait la radio, parce qu'on savait pas qu'elle était. On ne savait pas si elle avait un décor ou pas. Donc elle est dans sa gangue, et vous voyez que la radio donne de bons résultats. Voilà un autre exemple. Hein. Vous avez à gauche. Un élément, je m'en dis, ceinture mérovingienne, gangué, hein, et à droite, le même objet, dégangué. C'est pour ça que la radio, vous voyez, parce que vous ne faites pas de radio, vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez trouvé. Et là.
Nettoyage.
Oui. De quoi ?
Un métal ?
Oui, d'un objet en métal. C'est sans doute un brasero, hein, fait comme ça avec des lames de métal. Quel métal d'ailleurs ?
Cuisine.
Pardon ? C'est du fer. C'est
une petite fraise.
Et alors, qu'est-ce qui se... Oui, voilà, elle utilise effectivement une fraise pour faire quoi, en fait ?
Enlever.
Voilà. Voilà, c'est ça.
Là, c'est mécanique.
Là, c'est mécanique. Très mécanique. Alors, c'est fait sous une cloche, vous le voyez. Hein. Elle passe les mains sous la cloche pour travailler. Et elle a un masque, etc. Ça, c'est bien. C'est ça.
Oui.
Voilà, là vous avez justement une boucle mérovingienne, alors là en fer, hein, avec des éléments en bronze et clous en bronze, mais le fer pose évidemment d'autres problèmes que le bronze. Hein. Forcément, c'est du fer. Ce qui fait que, là qu'est-ce que vous voyez finalement sur cet objet ?
Le bas a été restauré.
Oui, voilà. Le bas a été restauré, pas le haut. Enfin, disons que le haut a été en partie nettoyé. Et le bas l'a été aussi. Et on l'a recouvert d'une matière... Alors, autrement, on mêlait des gros vernis, etc. Mais c'était terrible parce que c'était très opaque et ça empêchait l'objet de respirer, si j'ose dire. Maintenant, on met des matériaux beaucoup plus légers qui permettent à la fois de refixer, si vous voulez, hein, mais aussi à l'objet de respirer, quoi. Le tout est de ne pas enfermer l'objet dans une espèce de gang trop dur. Vous savez, c'est comme ce qu'on disait des peintures en bois la fois dernière. Hein. C'est-à-dire, en bois, on disait, si on les laisse vivre leur vie, elles se cintrent, c'est pas un problème. Hein. En tout cas, il ne faut pas vouloir les fixer dans le cadre du roman. Ben, là, c'est un peu pareil. Hein. Il faut nettoyer, enlever toute la corrosion, ok, mais une grande partie du métal a migré aussi. Il faut enlever la corrosion, pas aller chercher les rares restes de métal qui restent encore en dessous, si vous voulez. Hein. Et maintenir ce qui reste avec des matériaux très très légers qui ne vont pas enfermer, comme dans une espèce de gang de plastique, hein, l'objet en question. Il faut que ça respire.
Il est 7h.
Ouais. Oui, mais il n'y a pas encore un supplément. Oui.
Voilà, je voulais vous montrer pour terminer ça, hein, qui est la même chose. Ça, c'est une fibule mérovingienne. Hein. Et vous voyez là, oui, c'est très beau. Et vous voyez donc l'évolution, hein, depuis la pièce de gauche jusqu'à celle de droite. C'est beau, hein.
La couleur a été ravivée.
Avec grenat.
Oh, en fait, les grenats sont comme ça. Simplement, c'était très encrassé. Quand on les trouve en terre, ils sont évidemment un peu terreux, quoi. C'est ce que vous avez à gauche et encore au centre. Hein. Mais en fait, c'est des grenats. Ça a naturellement cette couleur.
Très beau.
Ouais, c'est très beau. Voilà, je crois que c'était la dernière diapo. Ah non, oui, ça c'était un manche de clé gallo-romaine. Vous avez l'objet non restauré à gauche et restauré à droite. Voilà. Bon, ben, cette fois, on n'a pas dépassé l'heure.